Donc, Dieu a appelé Moïse à aller en Égypte, libérer son peuple. Et nous avons vu que dernièrement, il envoie des Égyptiens en Europe, quelques années plus tard, montrant que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Et nous voyons dans l'histoire de Moïse, dans cet appel de Moïse, qu'il y avait des problèmes pour Dieu. Il y avait des problèmes pour Moïse. Et je voudrais élaborer un petit peu ces problèmes ce matin, parce que je pense que nous avons beaucoup de choses à apprendre dans cette histoire pour nous-mêmes aujourd'hui. Vous allez remarquer que lorsque Dieu a appelé Moïse, il était surpris, il croyait que déjà les deux tiers de sa vie étaient passés. Il avait à ce moment-là 80 ans. Et il se peut que dans sa tête, il croyait que les meilleurs jours étaient derrière lui. Peut-être tu es comme ça aujourd'hui et je te dis de ne pas limiter Dieu. On vient de chanter « Dieu est grand ». Et je pense que c'est très important parce qu'en Europe, nous avons beaucoup de gens de troisième âge, mais il y a de quoi faire pour le Seigneur. J'ai un ami, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui fait des films chrétiens. Mais son dernier projet, c'est pour les maisons de retraite. Et il a été voir Google. Il a découvert que Google donne du temps libre, gratuit, sur Google, si on a tant d'adeptes. Et maintenant, il passe des petits films dans le monde entier pour le Seigneur, payés par Google. C'est incroyable comment il a réussi à faire cela. Et il a fait des petits films qu'il envoie dans les maisons de retraite partout. Et il a tous les jours des nouvelles des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Et donc, c'est pas fini tant que c'est pas fini, n'est-ce pas? Jusqu'à notre dernier moment, le Seigneur peut se servir de nous pour être une bénédiction aux autres. On voit même avec Jacob sur son lit de mort, il a béni sa famille et ça a changé des choses pour l'avenir. Alors je crois que c'est une petite parole pour les grands-parents, maintenant que j'en suis un, de ne pas limiter Dieu à notre façon de voir des choses, et à ne pas permettre aux autres de te mettre dans une boîte sociale. Dieu est grand. Moïse, je veux que toi, tu ailles en Égypte libérer mon peuple. Mais Dieu, combien de fois on entend ça? Mais Seigneur, tu ne me connais pas. C'est comme si on lui disait, mais Moïse, il dit, mais Seigneur, regarde-moi. Pourquoi moi? Et on voit ses excuses. Je ne sais pas parler. En fait, je bégaye, il voulait dire. Dieu, pas de problème. Et Dieu, un par un, et il éliminait les problèmes. Il dit, mais Moïse, ils ne vont pas t'écouter, t'inquiète pas, laisse-moi m'occuper de ça. Pharaon, il ne va pas t'écouter, laisse-moi, je sais comment m'y prendre avec Pharaon. Et petit à petit, Dieu lui montre que le problème, Moïse, c'est toi le problème. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on veut aller pour le Seigneur, dans notre Égypte, aujourd'hui, dans le monde, pour partager la parole de Dieu, très souvent, le problème n'est pas la réception qu'on allait recevoir ou qu'on va recevoir dans le monde. Le problème, avant même d'aller dans le monde, c'est nous-mêmes. Nous avons nous-mêmes créé des problèmes dans nos églises. Et avant même d'aller dans la bataille, on s'est déjà convaincu que ce n'est pas la peine. C'est dur ici. Je voyage partout en Europe. Depuis Varna en Bulgarie, à Kiev, jusqu'à Nantes, depuis l'Espagne, Malaga dans le sud d'Espagne, jusqu'en Islande. Et partout où je vais, c'est l'endroit le plus difficile pour les chrétiens. Si tu savais ici combien c'est difficile, Samy me dit. Et moi, je peux dire la même chose dans ma ville de Belfast, même s'il y a beaucoup d'églises, il y a des coins très difficiles. Je peux dire ça même dans ma propre famille. J'ai des frères qui aiment plus le golf et la pêche que le Seigneur. Et on a affaire avec tout cela. Et Moïse, il commence à dire, Seigneur, mets ceci, mets cela. Et je pense que je voudrais juste souligner, à mon avis, quelques problèmes que nous avons créés pour nous-mêmes dans nos églises. On le voit chez Moïse. Lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, de nous emmener en dehors de notre zone de confort, n'est-ce pas? On a la peur. Soyons honnêtes, des fois on a peur. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai peur d'être ridiculisé. Ça m'est arrivé quand j'étais adolescent, une fois, on est allé dans une équipe d'évangélisation en Irlande du Sud, et sur une place dans une ville, il y avait tout un groupe de jeunes, ils étaient une trentaine, ils étaient là en train de fumer, tchatcher et tout le reste. Et moi, je suis allé leur parler du Seigneur comme ça. Ils m'ont jeté. Et j'étais vraiment découragé. Et puis, on regarde la vie du Seigneur quand il allait à la croix. Il n'était pas jeté, lui. Il n'était pas rejeté. Avec qui on se compare? Si mon image de moi-même est cassée, est ruinée, tant pis. C'est pas moi qui compte. Et je pense que des fois, on vit dans un monde où on est maintenant très pris par l'image de soi. Hein, n'est-ce pas? La mode et tout ce qui est visualisé aujourd'hui, et des fois on se laisse intimider parce qu'on a peur d'être ridiculisé, à l'école aussi. Je me rappelle ma fille une fois, la maîtresse à l'école à Marseille lui a demandé de chanter un petit chœur en anglais, et elle a chanté petit chœur Jésus même, et devant toute l'école, hein, elle dit ben c'est la bêtise ça, c'est toi. Elle est rentrée à la maison, elle était complètement bouleversée qu'on lui fasse ça. Et on a compris, on était en terre de mission. Et je pense qu'il faut attendre à ça, il ne faut pas croire que ça va être facile. Mais en même temps, il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce qui est le pire qui puisse nous arriver? La mort? Moi, je connais des frères et des sœurs à Kuala Lumpur qui sont musulmans, qui se sont convertis, et ils taquinent les autres chrétiens qui viennent d'arrière-plan chinois et indien. Ils disent, vous avez peur de mourir, vous. Nous, non. Et ils témoignent pour le Seigneur dans les milieux musulmans. Ça m'a repris de croiser les chrétiens aujourd'hui, en Égypte, en Indonésie, en Malaisie, et dans certaines situations, qui n'ont pas peur de témoigner, même si ça veut dire qui vont perdre leur vie. Waouh! En Europe, nous avons la liberté comme jamais auparavant. Tout l'Europe est ouverte devant nous. Il y a 30 ans, ce n'était pas le cas. On peut aller n'importe où en Europe et partager la parole de Dieu et être protégé par la loi du pays. Et on ne le fait pas. Parce qu'on est intimidé. Parce qu'on a peur d'être ridiculisé, parce qu'on a peur de paraître comme un, je sais pas, quelqu'un médiéval ou quelque chose, je ne sais pas, mais on a peur. Chers amis, la parole de Dieu nous parle là-dessus. Il ne faut pas avoir peur. Paul a dit à Timothée, il ne faut pas être timide, Timothée. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il savait que Timothée était timide. Dieu, il a dit à Josué, quand il allait dans le pays, Josué, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que tu as peur, Josué, je le vois. Et tu vas avoir peur. C'est normal. C'est pas naturel, la vie chrétienne. Les gens, ils vont pas mettre le tapis rouge pour toi en disant, ouais, viens, viens, viens. Ça arrive des fois, hein, il faut dire. Dieu prépare les cœurs des fois en avance et tu arrives. Ça m'est arrivé une fois. J'étais surpris que je savais pas quoi dire. Il y a un homme qui tapait à la porte de l'église un samedi après-midi quand je faisais le nettoyage. C'était mon tour. Je vais jamais oublier parce que c'était à la finale du Coupe d'Angleterre et je l'ai raté. Et c'était mon tour de nettoyer l'église et quelqu'un tape à la porte. C'était un gars qui me disait, je m'appelle Brian et je viens de lire un livre sur la prophétie biblique et ça m'a fait peur. Je veux devenir chrétien. Et j'ai dit, attends que je finisse là, parce que je savais, j'étais surpris. Et des fois, le Seigneur, il te fait des blagues comme ça, n'est-ce pas? Ça peut être ton enfant, un jour, qui dit, ben, maman, papa, comment devenir chrétien? Et on est trop occupé pour faire attention. Faisons gaffe. Soyons prêts. Mais n'ayons pas peur. Nous avons pas seulement la parole de Dieu et les promesses de Dieu, et Dieu tient ses promesses, nous avons la présence de Dieu. Quel privilège que le Dieu de l'éternité, le Je suis de l'éternité, L'Éternel habite en nous. Et on vit des fois comme s'il n'est pas là. Il peut nous donner le courage. Lorsque j'ai commencé, un jeune chrétien à donner mon témoignage dans les églises, il y avait un vieil homme qui m'encourageait à sa manière. Il dit, « Vaut mieux que tu sois nerveux avant qu'après, quand tu montes l'estrade. » Il dit, « Je connaissais des hommes qui montaient tout fiers et confiants, mais ils descendaient humiliés. Il vaut mieux monter en tremblant et descendre dans la joie, sachant que c'était le Seigneur qui agit, pas toi. » Chers amis, dépendons du Seigneur, pas seulement pour notre vie chrétienne, mais pour nos témoignages. On vit par la foi. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a commencé le serment sur la montagne, son premier point, c'était la dépendance de Dieu. Heureux les pauvres en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire heureux ceux qui ont compris que ce n'est pas eux qui feront le travail. N'est-ce pas intéressant que lorsque Dieu il a créé l'homme, c'était le sixième jour? Et lorsqu'il a créé l'homme, tout a été déjà fait. Et la première chose qu'il a demandé à l'homme, c'était de se reposer, parce que le lendemain, c'était le sabbat. C'est pareil pour le salut, n'est-ce pas? Il a tout fait pour le salut. Et il nous demande de l'accepter et de croire, mais de ne pas garder ça pour nous-mêmes et d'aller vers les autres, partager ça. Moïse, Seigneur, mais moi, je sais pas parler. Combien de fois j'ai entendu ça quand j'ai demandé à nos jeunes dans nos équipes de jeunes de partager un mot de témoignage. Mais exactement, on ne veut pas que ce soit toujours des plus confiants qui parlent et les plus capables. Ça donne fausse impression que c'est par nos moyens et nos dons et notre intelligence et notre force et notre acquis que ça se passe. Et on tombe dans ce panneau même dans les milieux chrétiens. Rien qu'à entendre les enseignants citer les gens, ils citent toujours des meilleurs et des fameux et des plus capables. Et monsieur tout le monde, on ne le cite jamais. Et pourtant, c'est à travers monsieur tout le monde que Dieu travaille. Si tu crois que tu n'es pas capable, tu es exactement celui que Dieu cherche. Dieu prend les choses faibles de ce monde pour que ce soit lui qui ait la gloire par la suite, pour qu'il n'y ait pas de doute par la suite que c'est lui qui le fait, et pas nous, et pas par nos moyens. On a maintes exemples de ça dans la parole de Dieu. Il y avait un prédicateur très connu à Londres à un moment donné, Charles Spurgeon, et une dame après qu'il avait prêché, il prêchait tous les dimanches à 7000 personnes dans son église. Quand il est décédé, Londres s'est arrêtée, la ville de Londres s'est arrêtée pour l'enterrement. Et une fois, une dame lui dit, après qu'il avoir prêché, « Monsieur Spurgeon, t'es formidable, quelle prédication !» Il a dit, « Je sais, le diable me l'a dit il y a 2 minutes. » C'est toujours ce danger, soit d'avoir peur, ou de mettre notre confiance en l'homme. Et Moïse, il devait apprendre cette leçon. Moïse, fais-moi confiance, c'est moi qui vais le faire, Moïse. Et nous-mêmes, lorsqu'il s'agit de notre témoignage et de nos églises, soyons honnêtes avec nous-mêmes, nous avons créé des problèmes pour nous-mêmes. Est-ce que nous avons un sens d'accueil dans nos églises? Vous savez, la première fois que je suis allé dans une église, je croyais que j'allais à un enterrement. En fait, c'est une soirée de louange. Des fois, dans nos églises, on n'a vraiment pas le sens d'accueil. C'est comme si on rentrait dans un frigo, hein? Bonjour, content de te voir. Ouais. Dis donc, je vais vraiment revenir. Et c'est vrai que des fois, on oublie qu'on pense plus aux gens de l'extérieur. On est tellement pris par notre ambiance nous-mêmes de famille qu'on devient un sous-culture, un petit club privé. Vous savez, il y a plein d'églises locales, ils sont en fait les clubs privés, comme on a d'autres clubs. On a notre club. Si tu connais pas quelqu'un de l'extérieur, tu vas jamais te sentir chez toi. Je l'ai vécu, ça. Moi, je suis pas de famille chrétienne, et quand on a fréquenté une petite assemblée pas loin de chez moi, c'était à une époque à Belfast où c'était très difficile. Il y avait beaucoup d'explosions, de bombes, de terrorisme et tout ça, et c'était dangereux de quitter ton quartier. Et moi, avec ma bande de jeunes, on tournait en rond, on ne savait plus quoi faire, on est allé au parc, jouer au foot, et puis ils ont fermé le parc, et on devait retourner dans le quartier. Et on a découvert une petite salle évangélique. Et on l'a découvert parce qu'on voyait des jeunes filles rentrer. Et on les a suivies. On était une vingtaine de jeunes garçons, je précise. Alors, ça nous a vraiment attirés à l'église. Il y en a une qui est ma femme aujourd'hui, il faut dire. Et on les a suivis, et puis il fallait s'asseoir pendant 30 minutes, tranquille, sans rien dire, 20 garçons. Impossible! Et tous les vendredis soirs, on nous a jetés de la salle avant la fin de la réunion. Tous les vendredis soirs, pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et ils ont persévéré tout le temps avec nous. Il y avait des jeux, et puis à un moment donné, il fallait s'asseoir parce qu'il faut absolument que quelqu'un prêche l'évangile. Et bon, on s'assoit, on arrête les jeux, casse-fête, parce qu'il fallait écouter l'évangile et on s'asseyait sur les bancs. Mais s'il y a un des garçons qui rigolait à l'intérieur de lui-même, on le sentait parce que c'était un banc. Et puis ça a fait que tous les autres se sont éclatés de rire et on nous jetait chaque fois. Mais ils ont persévéré. Une fois, je suis passé par le plafond. Oui. On est monté dans le grenier, on a vu un ballon, on traversait les poutres pour chercher le ballon et on est tombé à travers le plafond. Tu t'imagines les anciens, à la prochaine réunion des anciens, ça y est, c'est fini, on arrête tout. Ça nous coûte une fortune de réparer le plafond et ces jeunes-là, ils sont pas respectueux, ils respectent rien du tout, ils sont là que pour les filles. Et puis un par un, on nous laissait venir au week-end de l'église. Et un par un, on s'est donné au Seigneur. Et parmi le groupe de jeunes, maintenant, on est partout dans le monde. Soit avec le boulot, soit avec le travail du Seigneur. Et c'est cette petite église qui m'a recommandé au travail du Seigneur en France. Des fois, on n'a pas le sens d'accueil. On n'a pas beaucoup de patience. Parce que ça devient notre maison de retraite, n'est-ce pas, des fois? Ou on le traite un peu comme chez nous. On s'y trouve, on ferme les portes et personne ne peut rentrer. On faisait ça dans notre église. On fermait la clé. Après, 5 minutes après que la réunion commence, quelqu'un fermait la porte à clé. Bienvenue à notre église. Ça envoyait un signal un peu particulier. Et en fait, on crée nous-mêmes notre petit club privé. On ne se rend même pas compte, mais les gens de l'extérieur, ils remarquent de suite. Vous savez, si on réfléchit bien, le Seigneur, il a des problèmes d'abord avec nous avant même d'atteindre le monde à travers nous. La peur, la timidité, le petit club privé. Peut-être on porte des bagages dont le Seigneur veut nous libérer et dans notre discipulat, on ne nous a pas montré qu'on peut être vraiment libre. Si le Seigneur nous a libérés, c'est pour qu'on soit libre. Paul a écrit aux Galates. Mais des fois, soyons honnêtes, à nous regarder, on n'a pas vraiment la tête libre, n'est-ce pas? On a perdu notre sens d'humour. Récemment, dans une étude biblique d'évangélisation, il y avait un gars qui a dit « C'est fou, vous êtes normaux !» Il était étonné que les chrétiens soient des gens assez normaux, parce qu'on savait rigoler, on savait parler de tout, de la foot, de la nourriture, de la musique, on s'intéressait à autre chose que ce qui se passait dans notre milieu de l'église. C'est très dangereux, on rétrécit notre monde et on ne sait même plus avoir une conversation avec les non-croyants. Vous n'êtes pas chrétien? Ah bon, dommage. Fin de conversation, Parce qu'on n'a plus rien en commun avec eux. Et lorsque je me suis lancé dans l'implantation d'église, j'ai découvert très très vite qu'il fallait avoir d'autres intérêts. Parce qu'il n'y avait pas d'église. On faisait de l'implantation d'église, mais l'église n'existait pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire le dimanche? Et le culte? Mais il n'y a pas de culte parce qu'il n'y a pas d'église encore. Il va falloir faire quelque chose et il va falloir rentrer en contact avec les gens du coin. Jonas, il avait ce problème quand Dieu l'a appelé à Ninive. Qu'est-ce que je vais dire? Quelle langue je vais parler? Où sont les gens? Où est-ce que je vais les trouver? Alors, je prends le bateau pour l'Espagne, je vais aller en vacances. C'est plus simple. Et la ville allait périr. Et donc, il a dû apprendre à s'intéresser aux autres, que ce soit la culture, la langue, etc. Parce que, mes amis, il n'y a pas seulement les barrières que nous avons créées nous-mêmes. Et on pouvait citer d'autres listes de barrières que nous avons créées, n'est-ce pas? Lorsqu'il n'y a pas l'unité entre les chrétiens, on n'a pas le cœur pour l'évangélisation, il faut le dire. Moi, je sais que dans certaines églises, je n'ai pas le cœur d'emmener mes amis non-croyants. Parce que je sais que les chrétiens, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Comment tu veux que j'amène les non-croyants dans ce milieu-là? C'est comme dans un foyer, tu vas dans un foyer, tu sais de suite, c'est le mari et la femme sont toujours heureux d'être ensemble. Mais quand ils ne se parlent plus, ou il y a une froideur dans le foyer, tu sais que ce n'est pas un bon endroit pour amener les enfants ou pour élever les enfants. Et ça fait des dégâts. C'est pareil dans l'église. Pourquoi ce serait différent? C'était le plan de Dieu pour la famille locale, c'est le plan de Dieu pour la famille de Dieu. Si vous ne vous aimez pas les uns les autres, c'est une grande barrière à l'évangile. Les gens, ils vont venir, ils vont plus revenir parce que on s'aime pas, nous nous aimons pas. Pourquoi ça va les convaincre que Dieu est amour si nous n'avons pas de l'amour les uns pour les autres? Vous le savez, c'est une grande barrière. Et Dieu ne veut pas que ce soit ainsi. Vous savez, je parle avec les jeunes qui sont souvent bloqués par la volonté de Dieu pour ma vie. Voilà la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous nous aimions les uns les autres. C'est clair. Je n'ai jamais vu d'église se disputer sur ce sujet-là ou se diviser sur ce verset-là. C'est drôle, hein? Et pourtant, c'est parmi les versets les plus importants dans toute la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de l'amour les uns pour les autres, comment ils seront convaincus? Et puis, les non-croyants, il y a trois types de barrières, si on réfléchit bien, lorsqu'on veut gagner le monde pour Jésus. Il y a nos barrières à nous-mêmes et nous sommes responsables pour ces barrières. Si vous reconnaissez qu'il y a de telles barrières chez vous, c'est à vous de les régler. C'est à vous de vous humilier. C'est à nous de nous humilier en disant, Seigneur, pardonne-nous, aide-nous. C'est un contre-témoignage. Et Dieu nous tient responsables pour les barrières que nous créons. Moïse, arrête. C'est moi qui ai fait la langue, c'est moi qui ai fait la bouche, c'est moi qui ai fait la terre et les cieux. Comment tu peux me dire, je ne sais pas parler? Et le Seigneur nous demande d'être ses témoins. Et des fois on peut dire, nous Seigneur, nous, tes témoins. Eh oui, je veux que toi, tu sois mon témoin. Moi, je trouve ça miraculeux que Dieu veuille se servir de moi pour être sa lumière. Ça, c'est la plus grosse surprise de ma vie. Et le diable, il va te dire, tu n'es pas capable. Si Dieu savait vraiment ce qui se passait dans ton cœur et ta tête, il ne te choisirait jamais. Eh bien, il sait et il t'a choisi. Amen. Pas d'excuse. Mais aussi, on a des barrières avec des gens qu'on veut atteindre, n'est-ce pas? Des fois, j'oublie ça. J'ai cité des versets de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et je comprends pourquoi ils n'ont pas suivi. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et on emploie un langage, des fois, complètement, c'est comme du chinois. Je me rappelle une fois, je suis allé à l'église au début avec ma bande de jeunes, et on m'a dit que je devais être sauvé. Sauvé quoi? De quoi? Moi, je suis chez moi, je ne suis pas perdu. Et ils employaient tout un langage, la rédemption. Hein? Est-ce que tu as reçu la rédemption à travers le sang précieux de Jésus? De quoi il parle? Même après ma conversion, il y avait un ancien qui m'a demandé de donner mon témoignage. Je croyais que c'est ce qu'on faisait quand on allait au tribunal devant le juge. Parce que dans le monde, c'est dans ce contexte-là qu'on utilise ce mot-là, témoignage. Vous êtes témoin de quoi? Quel accident? Où c'était? Il y a maintenant un espace culturel qui s'est créé entre l'Église et le monde. Et cet espace culturel est de plus en plus large. Regardons la musique que nous écoutons. Avant de devenir chrétien, moi c'était Black Sabbath, Led Zeppelin, c'était du rock. C'était vraiment très bruyant parce que j'étais un mec. Hein. Et les mecs de mon époque écoutaient ça. J'avais les cheveux jusque là. Et puis on allait dans une assemblée de frères et alors, c'est déjà une honte d'avoir les cheveux là. Alors, déjà j'étais fichu. Et c'était pas couvert. Et donc, c'était très étrange pour quelqu'un qui avait pas l'habitude de ces. Pour ceux qui ont grandi là-dedans, ils comprennent le langage inédit. On dit une chose, mais en fait, ça veut dire une autre chose. Et on a dû apprendre plein de choses. Entre le pain et la veille, il fallait pas parler. Pourquoi? Où c'est dans la Bible? On l'a pas trouvé. Il y a plein de petits trucs qu'on pratique chez nous, que les gens de l'extérieur, ils pigent rien de tout ça. Notre langage, notre musique. Pour nous, les cantiques, c'était pour, excusez-moi, pour les jeunes filles et les dames. C'était pas pour les garçons, les cantiques, à l'époque. Et c'était vraiment un choc. Mes amis, les barrières dans le monde, la Bible nous les donne. On est aveugle. On est mort dans nos péchés. On est piégé par le diable. Et on essaie de leur parler. Quelqu'un qui est mort, qui est aveugle, qui est piégé, il a du mal à agir. Il est mort dans ses péchés. Et nous, on y va des fois, on leur cite la Bible de A à Z et on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas pigé. Il faut semer en petite dose aujourd'hui. Un verset. La moitié d'un verset. Peut-être un passage, peut-être un psaume, peut-être une prière. Et ça peut être obscur. Dieu, il peut parler à travers n'importe quelle portion de sa parole. Mais il faut pas gaver les gens de la parole de Dieu. Elle est puissante, la parole de Dieu. Faisons confiance à la parole de Dieu. Donc, un verset, des fois, suffit. Au commencement, il y avait la parole et les gens. Déjà, ça évoque l'imagination. Qu'est-ce qu'il dit? Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Déjà, ça pousse à la réflexion. Une fois, je faisais une campagne d'évangélisation à Lausanne avec une église d'action biblique. Et le premier soir, il y avait un homme qui était professeur en Chine. C'est un Chinois de Beijing. Et il venait, il était à l'université de Lausanne. Il assistait, quelqu'un l'avait invité à la réunion le premier soir. Et j'ai cité ce verset. Et il est venu après me reprendre. Tu peux pas dire ça. Je l'ai pas dit. C'était l'apôtre Jean qui l'a écrit et il parlait de Jésus. Il y a 2000 ans. Oui, mais vous avez pris vos idées des Grecs. Alors il m'a cité en fait que l'influence de la civilisation grecque sur le christianisme. Et on a pu entrer en dialogue ensemble, mais c'était ce verset qu'il a vraiment évoqué, qu'il a réveillé. Et qu'il a poussé à la réflexion, à la fin de cette semaine, il avait donné sa vie à Jésus-Christ. À travers le verset, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas l'église dans laquelle on se trouvait. Vous allez remarquer dans le Nouveau Testament que les apôtres ne prêchent pas l'église. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Nulle part on trouve qu'on prêche l'église. On prêche l'évangile. Et ceux qui ont accepté Jésus se sont joints à l'Église. Ils sont déjà nés dans l'Église. On n'a pas besoin de prêcher l'Église. On ne prêche pas à nos enfants la famille. Ils sont dans la famille. Ils apprennent ce que c'est la famille une fois dedans. Ils naissent dedans. On prêche Jésus-Christ et Christ crucifié pour nos péchés et ressuscité pour nous donner le garant de la vie éternelle. On prêche le royaume de Dieu qui est beaucoup plus grand. Le plan de Dieu pour l'éternité. Les cieux et la terre passeront, mais le royaume de Dieu est éternel. Mais quel plan! Les jeunes, ils ont besoin d'entendre parler de ça. C'est beaucoup plus grand que l'église locale. Je suis fier de l'église. Jésus, il a dit, je bâtirai mon église. Mais des fois, les églises créent des obstacles à l'évangile. Vous savez, on dit souvent chez nous, c'est plus facile d'aller au ciel de devenir membre de certaines églises. C'est vrai. Et constamment dans ma ville, je croise des chrétiens qui sont, comment je veux dire, ils fréquentent plus d'église. Maintenant, ça peut être leur faute. Je ne dis pas que c'est toujours la faute de l'église. Mais quelque chose, quelque part, il y a quelque chose qui cloche. On a créé des barrières quelque part. On a rajouté à la parole de Dieu pour rajouter des conditions de devenir membre qui deviennent des obstacles aux gens. Il y a des obstacles que nous avons créés nous-mêmes et c'est à nous de les reconnaître et les dénoncer et de demander pardon au Seigneur parce que ça empêche les gens à recevoir Jésus-Christ. Très souvent dans les conversations, quand je commence à parler de Dieu, de suite les gens me parlent de l'Église. Ils disent, mais je ne parle pas de l'Église, je parle de Dieu. Je parle de Jésus. Pourquoi tu parles de l'Église? Parce que pour eux, dans leur tête, c'est tout mélangé, n'est-ce pas? Et puis les non-croyants, ils ont des barrières spirituelles. Ce sont de vraies barrières. Ils ne nous comprennent pas. Faisons attention à notre langage, mes amis. Employons un langage beaucoup plus simple lorsqu'il s'agit des gens de l'extérieur. Ils ne comprennent pas le patois de Canaan. Ebenezer, tu vas à quelle église? Bah, mon église, c'est Ebenezer. Quoi? Qu'est-ce que c'est, Bethany, Ebenezer? Tous les noms bibliques que nous avons par le passé comme nom d'église, ça c'est un langage spécial. Je n'ai pas honte de ce langage, il y a une place pour ça. Mais pour les nouveau-nés et pour les gens qui cherchent ce langage, ils ne comprennent pas. Je vais élaborer là-dessus cet après-midi, parce que je pense que c'est un grand problème maintenant. On a le cœur pour l'évangélisation, on sait que le Seigneur est avec nous, on sait que la parole de Dieu est puissante, mais il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être ton bâtiment, tout simplement, c'est au mauvais endroit. La ville a changé, mais vous êtes toujours là. Mais il n'y a personne qui habite là maintenant. Hein? C'est une zone industrielle ou c'est une zone qui maintenant où il n'y a plus de maison. C'est peut-être quelque chose de simple. Le Seigneur nous demande peut-être de vendre le bâtiment et déménager. Comme on fait pour nous-mêmes. C'est peut-être le culte du bâtiment. Vous avez tellement un beau bâtiment maintenant qu'en fait... Votre identité est maintenant liée à ce bâtiment. C'était le cas avec mon église à Belfast, parce que c'est un bâtiment qui date de 200 ans, et les touristes viennent, ils rentrent dedans, et c'est très très beau, vous pouvez le regarder sur Internet, ça s'appelle Crescent Church. C'est dans les brochures touristiques, et il y a des gens dans mon église, et c'était le bâtiment, et les anciens, l'église, on a dû déblayer ça. C'est qu'un bâtiment, c'est pas l'église. Et lorsqu'on a créé le restaurant, on a eu beaucoup de réactions. « Oh, qu'est-ce que vous faites de ce beau bâtiment ?» Eh bien, on veut que les gens rentrent, c'est ce qu'on fait. Et puis, il y a une troisième barrière que je vais juste citer, et je reprendrai ça cet après-midi, c'est une barrière culturelle. Dans les non-croyants, ils ont leur barrière spirituelle, aveugle, mort dans les péchés, piégé par le diable. Les chrétiens, nous avons nos barrières de peur et de sous-culture. Mais il y a une barrière culturelle qui s'est créée ces derniers 200 ans, surtout en Europe, où autrefois, beaucoup de gens fréquentaient l'Église, et puis il y a des coupures qui ont fait en sorte que la société dans laquelle nous vivons est maintenant loin de la culture chrétienne que nous vivons. Et à mon avis, nous avons ignoré ces barrières-là. Comment communiquer? Comment construire un pont entre l'Église et le monde dans lequel nous vivons pour que les gens puissent trouver le salut, puissent trouver le Seigneur Jésus-Christ? Et je vais aller un peu plus loin cet après-midi. Le temps est passé trop vite. Pas pour vous, mais pour moi. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta patience avec Moïse, parce qu'à cause de ta patience, tu as fini par libérer le peuple à travers Moïse et son frère Aaron. Et Seigneur, tu nous demandes aussi d'aller pour libérer des gens pour être les porte-paroles de ta parole, Seigneur. Et merci de ce que tu viens avec nous et tu tiens tes promesses. Seigneur, nous connaissons les gens dans nos vies et il semble que c'est impossible pour eux de suivre ou de croire en toi. Ça peut être des frères ou des sœurs ou des parents ou des enfants. Et ils sont dégoûtés de l'Église ou de ce qu'ils ont vécu dans l'Église. Seigneur, je te remercie de ce que ton Esprit Saint peut aller partout, même dans les prisons, même dans les pays interdits, même dans les cœurs les plus sombres. Et nous te remercions de ce que tu es le Dieu de la résurrection. Seigneur, on te demande, on te supplie d'enlever les barrières que nous avons créées nous-mêmes, qui ne viennent pas de toi, que ce soit notre orgueil ou notre peur. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir créé une sous-culture quand tu nous demandes d'être tes témoins dans le monde. Guide-nous, Seigneur, là où nous sommes, et aide-nous à redécouvrir la puissance de ton Saint-Esprit et de ta parole dans nos vies de tous les jours. Au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Bon appétit.